Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors, ce qui m'a interpellé, les GG, justement, c'est à la lecture du livre de Manon. Tu reviens assez largement sur un sujet dont on n'a jamais trop parlé, finalement. Ici, on l'a un peu abordé de près ou de loin. C'est la construction d'un mental quand on est sportif de haut niveau. Ou d'ailleurs, la construction d'un mental dans la vie de tous les jours. Hein, parce qu'on sait que souvent, ce dont on parle ici fait écho dans la vie de tous les jours aux gens qui nous écoutent. Je voudrais qu'on parle de ça. Comment on le construit? Est-ce que ça se construit? Alors, Manon, il y a une phrase qui m'a marqué, page 105 dans ton livre, c'est « Le mental, c'est avant tout devenir fiable ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Pour moi, c'est arriver à comprendre comment on fonctionne pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebondir. Parce qu'en fait, quand on arrive à chaque compétition, on a beaucoup de stress qui vient et d'un coup, on panique, on ne sait pas ce qui se passe. On a plein d'idées un peu négatives qui rentrent dans nos têtes et du coup, on vacille. Et j'ai beaucoup vacillé et je me suis dit, ben, je sais faire plein de choses, comment je fais pour les mettre en place? Et quoi qu'il arrive, que je sois bien ou que je sois mal, et ben, j'arrive à mettre mon jeu en place. C'est un peu ça.
Tu as beaucoup vacillé, tu dis, tu reviens notamment largement dans le livre sur Rio en 2016 où tu termines 4e. Tu te rends compte un peu après finalement que tu as été un peu victime d'injustice, tu parles d'une fissure que tu as vécue, que tu as gardée en toi et que il a fallu reconstruire sans te rendre compte. Tu retournes en demi-finale à Tokyo, surtout le même adversaire, les mêmes arbitres, les mêmes coachs, je crois. Tu perds finalement, tu arrives à te relever, tu fais médaille de bronze et 3e. Et ensuite, tu prends un préparateur mental, Stéphane Limousin, qui t'accompagne. Justement, ces expériences-là, elles servent un mental, ça se construit. Pas forcément tout seul aussi, tu penses?
Je trouve pas du tout. Ouais. J'ai vraiment eu besoin qu'on m'aide. Quand j'avais regardé, c'est drôle, le documentaire avec Michael Jordan, et je le voyais réciter des phrases tout seul et dire aux journalistes des choses qui étaient pour lui vraiment logiques. Je me disais, moi, c'est mon préparateur mental qui a dû me les inculquer parce que tout ne venait pas de moi. Donc oui, j'ai eu besoin vraiment d'aide pour bien penser.
Et tu nous parles notamment de cette boîte à outils que tu as pour ton mental avec des tiroirs, notamment avec cette idée de tenir, de durer. Tu parles notamment du fait que durer dans les moments difficiles, t'appuyer sur tes moments forts, visualiser aussi des moments difficiles, accepter ce que tu ressens. Ça a été déterminant pour toi, ça, de cadrer, on va dire, ta tête finalement.
Oui, complètement. Et je me rends compte même que si je m'entraîne pas et que je continue pas de la cadrer, en fait, tout part un peu en vrille. En ce moment, tu vois, je me dis, faudrait peut-être que je relise les livres. Parce que j'ai encore pas mal de travail. Je dois tout recartographier, tout remettre en place parce que, une grossesse, un peu de temps un peu loin, je reviens en compétition. Au début, je suis contente et finalement, il y a des doutes qui reviennent, des défaites qui viennent. Et puis, j'ai besoin de tout reconstruire.
Chasser le naturel, il revient au galop, hein. C'est un travail constant, hein.
C'est vrai.
Il faut jamais lâcher l'affaire. Ouais. Même s'il y a des gens qui ont des facultés, on en parlait avec Marion tout à l'heure, des facultés de base peut-être supérieures à d'autres, mais ça reste quand même un travail du quotidien. Ouais.
Marion, d'accord avec ça?
Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est que effectivement tu évoques Michael Jordan. Alors moi j'ai grandi en idolâtrant totalement Michael Jordan, en regardant justement sa manière de penser. Un autre qui est un petit peu dans cette même veine-là, c'était Kobe Bryant, où on a l'impression qu'ils sont totalement insubmersibles, que les tirs à 3 points sur le buzzer, s'il y a bien un qui va le mettre dans le panier, ça va être ce genre de joueur et qu'il faut absolument leur donner le ballon parce que les clutch moments, c'est pour eux. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une espèce de certitude de leur performance qui transpire à travers toute leur attitude et leur déclaration. Et je pense que nous, alors je sais pas si c'est un franco-français ou si c'est finalement universel par rapport à une personnalité de chacun, mais au plus on émet des doutes, au plus dans notre carrière on aura pu nous dire par exemple qu'un coup était plus mauvais qu'un autre, ou que finalement on était moins bonne physiquement, ou qu'on avait des difficultés sur certains éléments, au plus ça nous reste collé à la peau. Et ça, par contre, sur les grands événements, les grandes finales, pour arriver à mettre ça de côté et avancer en disant non, c'est ma place, c'est aujourd'hui, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur et finalement j'ai travaillé pour ça et je le mérite autant que l'adversaire que j'ai en face du filet, ça c'est un grand travail sur soi-même. Alors je sais pas si c'est une construction mentale, un travail sur soi-même, une confiance en soi qu'on doit peut-être un peu plus développer que d'autres. Mais
toi, tu l'as construit, Marion?
Moi, j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même pour accepter que j'avais pas totalement aucune qualité pour arriver à jouer au tennis et que finalement, j'aurais éventuellement la capacité d'y arriver.
Parce que t'étais hyper négative.
Non, parce que toute ma jeunesse, on m'a expliqué que je ne savais pas jouer au tennis et que j'étais très mauvaise. Mmh. Et donc, ça servait à rien que je continue à jouer au tennis parce que l'école était effectivement beaucoup plus facile pour moi et que donc, j'aurais beaucoup plus de capacité et que je m'éclaterais beaucoup plus en faisant quelque chose que je maîtrisais plutôt que d'essayer de tenter de faire quelque chose que je maîtrisais pas. Mmh. Mais ça, vous vous rendez pas compte. Et j'insiste là-dessus parce que les entraîneurs que les enfants côtoient jeunes, on en discutait hier avec Alizé qui partait sur des déplacements nationaux avec la maman de Valentin Vachereau quand elle était petite. Vous avez entre guillemets des accompagnants qui peuvent être très boosters parce qu'ils sont là justement pour en disant non, tu vas y arriver, c'est pour toi, t'es la meilleure. Et puis vous en avez d'autres qui vous rabaissent en permanence et ça vous colle à la peau, mais je peux vous dire pendant extrêmement longtemps. Donc ce qui est très intéressant pour moi, c'est que dans la culture américaine, et c'est pour ça que je parlais de Serena, et c'est pour ça que, alors aussi pour les Espagnols avec Rafa, avec Novak Djokovic, t'as l'impression qu'ils sont persuadés d'être les meilleurs au monde et que quand ils rentrent sur le terrain, ça... ça a une force.
Oui, mais on a
énorme.
L'impression qu'on a de plus en plus avec les jeux d'athlètes français, notamment.
Qui est
ça a infusé aussi cette confiance en soi. Simon, tu avais une observation?
Moi, ce que ça m'inspire, c'est que j'entends ce que tu dis, Marion, mais j'ai tendance à me dire que tu parles plus de confiance que de mental.
Et mais les deux sont liés.
Je pense que le mental, et là, je parle sous votre contrôle, vous sportif de très haut niveau, c'est peut-être plus important pour surmonter, je sais pas, l'échec, la défaite. La lassitude après des victoires, comment se remotiver, la blessure peut-être, parce que la confiance finalement, elle naît de tes résultats et je suis pas sûr que ça participe vraiment d'une construction. Manon, tu parlais du fait que tu avais utilisé une aide, un support, quelqu'un qui t'a aidé à construire. Et je pense que là où le rôle du mental est encore plus surligné, c'est justement celui qui te permet, voilà, de croire en toi, alors que les faits t'inciteraient à renoncer, ou en tout cas à te dévaloriser, ou en tout cas, tu parlais des témoignages qui te disaient t'es pas faite pour jouer au tennis. Voilà, le mental, il est là pour te dire, voilà, malgré tout, moi je vais y arriver. Alors que, évidemment, bon, si tu bats tout le monde et tout, tu vas avoir la confiance. Et évidemment, Kobe Bryant, il était doué, Michael Jordan était doué. Donc, finalement, est-ce qu'il y a une vraie. Est-ce que c'est vraiment une performance de leur part de se dire, bon, ce shoot, je vais le prendre?
Non, mais c'est ça qui est intéressant.
Quand tu sais que tu vas le mettre.
C'est ça qui est intéressant. C'est que quand tu écoutes Kobe Bryant, il a passé un été complet dans sa jeunesse, il n'avait pas marqué un point. Et personne ne voulait faire partie de son équipe. Donc, en fait, sa confiance, elle est venue de son entraînement. On le sait, il a s'entraîné plus que les autres, etc. Mais pour en revenir à Manon, ce qui est intéressant dans son histoire personnelle, c'est qu'à un moment donné, elle a dû faire face à des difficultés importantes et qu'elle s'est construit une confiance en elle grâce à des phrases clés qu'elle est allée chercher dans des moments important et donc dans cette finale certainement que ces phrases clés sont revenues, donc en fait tout est lié, tu vois. Et on parlait de Serena et Alizé pour en témoigner, le nombre de fois où Serena arrivait avec avant un tournoi du Grand Chelem en étant pas forcément très affûtée, pas avoir joué de match quasiment, plus tête de série, et elle arrivait et elle gagnait et elle battait tout le monde. Mais ça, il faut une immense confiance en soi, tu vois ce que je veux dire. Ouais,
comment on construit un mental dans le sport de haut niveau? On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport avec Manon Apiti, championne olympique d'escrime alizée.
Les croyances qu'ont les grands champions en eux, c'est vrai que c'est une partie très importante de leur mental. Mais pour moi, les aspects du mental, pour rejoindre un peu ce que tu disais, Simon, ils sont vraiment multiples. Parce que le mental se montre au quotidien, en fait, dans sa façon d'aller s'entraîner, dans la détermination que tu peux mettre au quotidien, dans la résilience, la capacité à rebondir après un échec, dans la curiosité, aller chercher des solutions, aller chercher des gens pour s'entourer, et puis ensuite pendant la compétition, ne jamais baisser les bras. En fait, c'est pas que la croyance et la confiance qu'ont les grands champions, c'est aussi cette manière de s'entraîner, cette manière en fait d'aller chercher son rêve malgré les gens qui peuvent parfois essayer de décourager, parce qu'il y a toujours des gens pour décourager. Ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est inhérent à toutes les cultures. Il y a toujours des gens pour qui ça fait mal d'aller voir d'autres gens aller chercher leurs rêves. Et ça, vraiment, les champions et les grands athlètes, c'est des gens qui sont dans leur tunnel et qui, en fait, quoi qu'il arrive, ont cette volonté, cette détermination sans faille. Donc, en fait, le mental, on peut l'étaler sur tellement de paramètres.
Ouais,
on peut l'étaler
très loin.
Ce qu'il faut, c'est identifier ce dont on a le plus besoin pour performer. Pour Manon, ça va être quelque chose. Pour Marion, ça va être autre chose. Pour moi, ça va être autre chose. Et ça, c'est fascinant et c'est passionnant, en fait, d'explorer ces sujets-là. Et
par exemple, pour construire ton mental, Manon, il y a aussi se mettre peut-être un peu dans l'inconfort. Après Tokyo, tu décides de quitter l'INSEP, d'aller t'entraîner à Orléans dans les conditions qui sont peut-être un peu moins, bling-bling qu'à l'INSEP. C'est pas bling-bling l'INSEP non plus.
Je crois qu'ils ont refait le gymnase, du coup, c'est hyper chic maintenant.
Non, mais à Orléans, voilà, t'es avec des escrimeurs étrangers qui viennent un petit peu partout. Les conditions sont pas forcément aussi bonnes. C'est un peu plus Rocky Balboa, je crois que tu dis dans le livre. Non, mais dans la construction de ton mental, il y a aussi ça. Il y a se mettre en difficulté, sortir d'une zone de confort.
Oui, c'est ça. En fait, je suis allée chercher la médaille de bronze et d'argent aux Olympiques de Tokyo, et je me suis dit, ben maintenant, je veux quelque chose de plus. Et je sentais que j'étais arrivée au bout d'un cycle. Et je me suis dit, comment je peux devenir meilleure. Et en fait, dans ce moment-là, il faut aller chercher quelque chose de nouveau. Et forcément, ça bouleverse. Et c'est pas juste le côté d'une salle rustique, d'un entraînement qui est beaucoup plus difficile, mais ça va être accepté et être prêt à changer ce qu'on a appris pendant des années, se dire ok, je vais peut-être changer ma technique. J'imagine quand on vous a dit un jour de changer votre service, on se dit mais ça fait 20 ans que je gagne avec ça, est-ce que ça va marcher ou pas? Et ça va être quelque chose de très difficile, et ça va forcément amener à un moment donné où quand on change quelque chose, on devient un peu moins fort pour aller encore plus haut, et ce moment de chute,
il est
vraiment vraiment effrayant. Et donc là, je pense que la préparation mentale aide beaucoup, parce que on perd forcément parfois un peu confiance, ou même si la confiance est là, et qu'on continue d'aller s'entraîner, il y a des moments de gros doutes, et il faut pouvoir réactiver et continuer d'avancer.
Après, c'est la confiance qu'on a aussi en son entourage, en ses entraîneurs.
Exactement.
Parce que du coup, là, tu donnes quand même les clés à quelqu'un pour te guider. T'as intérêt à avoir confiance en la personne, parce que si tu te changes un truc, l'escrime, je m'y connais pas trop, mais nous, en l'occurrence, dans les prises ou dans les gestes et tout ça, oui, quand t'as cette période où d'un coup, tu mets plus une balle dans le terrain, mais que tu te dis c'est pour être meilleur plus tard, il faut avoir une sacrée vision quand même.
Tu te rappelles de cette année encore Alcaraz qui continue à faire évoluer son service, Sinner continue à le faire, et Rafa avait quand même changé sa prise de service. Donc l'équivalent, c'est aller quasiment bouger ta main, par exemple, pour prendre ton épée.
Ouais,
c'est quand même énorme.
Deux semaines
avant l'US Open, l'US Open qui va gagner 2 semaines plus tard.
J'aime bien quand on voit des choses après un peu identiques selon les sports, effectivement. Jérôme Pinault, la construction d'un mental. Dans le cyclisme, pour le coup, on dit souvent, d'ailleurs, les cyclistes, vous êtes des forçats de la route. Il y a cette idée que vous êtes peut-être justement comme les marathoniens, peut-être ceux qui ont un mental dans la résilience encore un peu plus que d'autres. Comment ça se construit? Est-ce que ça se construit?
Ça se construit, oui et non. Moi, j'ai lu ton bouquin et j'ai beaucoup aimé. Je suis en total désaccord avec certaines de tes positions, parce que je pense que quand tu quittes l'INSEP pour retourner à Orléans, c'est que tu as des certitudes et tu ne vas pas te remettre en doute. Tu as 80% de certitudes, tu sais que tu vas y arriver, tu sais que ta technique est bonne, tu sais que tu fais partie des meilleurs. Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'à la base, et je le dis souvent, et certains me disent on est des êtres un peu extraordinaires. Quand tu fais du très haut niveau, il y a beaucoup de gens qui veulent faire comme nous, mais ils n'y arrivent pas.
Ah oui,
pourquoi ?
Répète,
parce que mentalement,
tu veux dire, en toute humilité, il faut le dire.
Non, mais
quand
c'est
même.
Sûr.
Ouais,
voilà. Non, mais c'est pas de la prétention. C'est que nous, les sportifs de haut niveau qui avons réussi à haut niveau, quel que soit le niveau, et les grands champions, c'est pour ça que j'ai encore plus de respect. C'est parce que on est fait différemment, c'est tout. Ça n'est pas donné.
T'es né avec un mental de champion.
Mais un mental. Il y a d'abord quelque chose avec lequel tu es né, une capacité et du talent. Et après, tu travailles.
Là, t'as une capacité de rebond qui est supérieure.
Et les deux font que mentalement, tu construis quelque chose qui est bougeable, évoluable.
Et toi, par exemple, dans ta carrière, il y a eu des moments qui ont construit.
Mais sauf que la base, c'est le travail. Et si tu sais. Que on dit toujours, si tu prévois, il peut y avoir des problèmes. Mais si tu prévois rien, c'est sûr que tu auras des problèmes. Et ça, dans le sport, c'est encore plus vrai. Si tu es performant, si tu travailles, si tu fais tout ce qu'il faut, je suis d'accord avec vous sur le côté psychique, la côté préparation mentale. Mais la base, quand tu es fort, que tu es prêt et que tu as passé des moments compliqués chez les jeunes, parce que le parcours, tu racontes super bien, c'est chez les jeunes d'abord. T'es intouchable. Un jour, ça va revenir. Quand tu fais le choix de partir, de t'entraîner dans des conditions plus compliquées, moi, j'ai fait le choix de partir à l'étranger, mais j'étais sûr que ça allait marcher parce que j'avais la base. Alors, j'ai travaillé le psycho, et évidemment que c'est très important. Ce sont des petits éléments qui font que tu vas.
Tu savais que tu avais la base parce que tu savais que tu avais une fiabilité pour revenir
au monde. Elle est exceptionnelle. Elles sont des athlètes exceptionnelles. Donc, finalement, tu es meilleur que les autres. Tu as été chercher des médailles parce que tu te dis, je me construis. T'as déjà un paquet de breloques à la maison.
Il y a peut-être des sports où il y a des certitudes plus faciles à atteindre que d'autres, mais dans ces sports où t'as un adversaire en face, des sports comme le tennis et l'escrime, en fait, il y a quand même pas que ta personne qui compte. J'imagine que dans le cyclisme, à un moment donné, tu fais une perf, c'est physique, tu sais que si tu arrives à tel chiffre, telle performance, tu vas progresser. Mais nous, il y a cet aspect tactique, technique, stratégique.
Dans le vélo aussi, l'adversaire, c'est la même.
Tu peux jamais être sûr que ça va fonctionner.
J'ai gagné une étape sur le Tour d'Italie un mardi, le mercredi, j'étais mauvais, j'ai pas fait les bons choix. C'est une remise en question permanente, mais ça, on l'a tous.
Mais c'est difficile de dire qu'on est sûr parce qu'on n'est pas, déjà, comme tu dis, il y a quelqu'un face de nous.
Mais au fond de toi, t'es sûr. Sinon, tu laisses pas quelqu'un décider pour toi comment tu vas prendre ton épée, comment tu vas prendre ta raquette. Vas-y, fais.
Je suis sûr de ce qui est le mieux pour moi, mais je sais pas si ça va marcher parce qu'il y a d'autres personnes en face de moi qui s'entraînent aussi.
Tu vas faire en sorte que ça va marcher.
Oui, mais je suis pas la seule sur le monde à faire ça.
mais sauf que c'est
trop beau.
Moi je trouve que c'est ce débat est super parce que c'est trop simpliste d'expliquer que en faisant ça, ça et ça, ça a marché. Non, la base c'est on est fait pour ça. Il y a des éléments à mettre en place.
Mais
n'allez pas faire de votre gamin un futur grand champion dans quelle que soit la catégorie parce qu'on va travailler psycho.
Oui,
parce,
non, bien sûr. Non, mais là où, vrai, là où je le
chaque
rejoins.
Chemin est différent.
Non, mais là où je le rejoins, et je pense que c'est ça que tu veux expliquer, c'est qu'aujourd'hui, si t'enlèves 100 watts à Tadej Pogacar, il peut avoir le meilleur mental du monde, il va pas gagner le Tour de France.
Évidemment.
Et mais... si t'enlèves 50 km/h au service d'Arina Zabalenka, il peut avoir le meilleur mental du monde.
Et si t'enlèves les yeux,
elle verra rien pour toucher.
Non, mais si tu enlèves même le mental, Marion, si tu enlèves la capacité mentale à aller chercher des zones.
Exactement. Mais
dans
en fait,
l'au-delà de ce que
là où Alizé a évoqué un point qui me paraît crucial et elle a totalement raison, c'est qu'en fait, le mental, il se construit au quotidien dans ta capacité à te lever tous les matins, quel que soit ce que tu as gagné la veille.
Parce que tu en es le bon exemple en plus. Hein.
Non, même pas, parce que moi, j'ai arrêté quand j'ai gagné, donc c'est le level 8.
Oui, mais...
Non, là où j'ai beaucoup encore de respect, mais alors un respect mais total, c'est pour Roger, Rafa, Novak, et ce qu'ils sont en train d'une certaine manière de faire Yannick et Carlos.
Faire de gagner, de continuer.
Mais ça, c'est encore plus dur. Mais ça, c'est tellement dur. C'est-à-dire que tu gagnes, t'as une cible comme ça dans le dos, et tu te relèves chaque matin et tu dis bon, bah là, la séance d'acidose lactique que j'ai faite il y a 3 semaines, bah, il faut qu'elle soit encore plus dure. Parce que, en fait, si tu progresses pas, tu régresses. Donc, et les autres vont te rattraper. Donc, ça veut dire que tu dois faire encore plus. Et cette capacité à se remettre de manière permanente en question, de pousser l'entraînement dans des zones qui sont très inconfortables et le faire pendant 20 ans, comme les 3 champions que j'ai cités, c'est totalement au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, ça, j'ai un respect absolument profond et énorme.
Et c'est ça un peu que je voulais te dire dans le livre, c'est-à-dire que, en fait, les champions sont capables de tout ça.
Oui.
Mais on n'est pas des... Alors, comme tu l'as dit, on est peut-être des machines, on essaie mieux rebondir que les autres. On est beaucoup à devoir apprendre plein de choses. Et en fait, sinon, on doit apprendre des choses. Je pense que tout le monde, toutes les personnes, chaque personne qui se lève le matin et qui a un but dans sa vie, eh ben, il peut pas se dire bah « Non, mais j'ai pas de mental, je peux pas y arriver. Bah » Non, mais tu peux l'apprendre, tu peux avoir des motivations chaque jour, tu peux avoir des doutes et quand même essayer, tu peux avoir peur et aller quand même à ton examen et réussir. Et en fait, c'est juste, c'est ça que je voulais inculquer, c'est de dire « J'ai plein de peur, j'ai plein de doutes. » J'ai cherché des solutions pour pouvoir traverser ces difficultés et j'ai réussi. Je suis pas, comme on disait tout à l'heure, on voit des champions, on se dit mais eux, ils sont invincibles, ils ont peur de rien. Ben moi, j'ai vu dans l'adversaire que je croyais la plus forte au monde douter. Je me suis dit si elle doute, je peux douter. Oui. Et comme Teddy Riner, enfin,
l'invincibilité, ça n'existe pas.
Exactement.
En fait.
On est tous humains et on
c'est
cherche.
C'est juste l'impression que nous on a de l'autre. Oui, alors sa tête, il est certainement pas comme ça. Et ben vous savez quoi, exceptionnellement, on va continuer d'en parler dans le vestiaire. On va prolonger parce que la discussion est hyper intéressante. Comment construire un mental. Vous avez bien compris qu'on parle pas que de sport avec Manon Appiti, championne olympique d'escrime, avec nous aujourd'hui, qui sort donc ce livre L'or de la vie, dépasser mes peurs et mes limites aux éditions Robert Laffont. On revient dans un instant sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, avec Alizé Cornet, Jérôme Pinault, Simon Dutin et Manon Appiti avec nous aujourd'hui, championne olympique d'escrime à Paris 2024 qui publie L'or de la vie, dépasser mes peurs et limites et mes limites aux éditions Robert Laffont sur la construction voilà de d'un chemin pour être championne et la construction d'un mental surtout. C'est le sujet de notre vestiaire qu'on prolonge aujourd'hui, comment construire un mental. Alors Manon, je te le disais avant l'antenne, moi il y a un truc qui m'a fasciné dans ton livre, c'est tu dis que justement avec ton préparateur mental Stéphane Limousin, il y a aussi cette idée de se préparer au pire, ou en tout cas à l'improbable, parce que tu apprends de ta mauvaise expérience de Rio que bah, il peut y avoir des décisions arbitrales par exemple sur lesquelles tu n'as pas la main, qui peuvent te priver d'un rêve. Donc tu imagines le pire à Paris 2024 par exemple, tu imagines le pire au Grand Palais, tu veux l'expliquer?
J'ai fait beaucoup de séances de visualisation de comment je voulais être sur la piste. Jamais, j'imaginais jamais un adversaire, j'imaginais jamais l'arbitre, mais j'imaginais juste moi me battre sur toute la journée jusqu'à la victoire. Puis un jour, je me suis dit, bah, on va aussi visualiser ce qui pourrait mal se passer. Et dans les choses que j'ai visualisées, je me suis dit, bah, allez, pour pousser le truc jusqu'au bout et limite pour en rire, je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si la verrière se tomberait, quoi.
La grande verrière du Grand Palais.
Exactement.
Genre, elle se brise d'un coup. Il y a des heures d'interruption, il faut gérer ça, quoi.
Voilà, il faut gérer ça. Et il va falloir que j'attende, que j'arrête, que peut-être que j'y retourne, peut-être que ce sera plusieurs jours après. Mais je suis prête ou est-ce que je suis pas prête? Bah, si, je suis prête, quoi qu'il arrive, à être concentrée ou à me reconcentrer à n'importe quel moment.
Et c'est ça, un peu ça. Ça t'a servi, ça, tu penses? Parce que finalement, t'as passé ta journée, tu dis, bon, en fait, la verrière,
La barrière est bien là. je pense que ça m'a servi parce que ce qui s'est passé à Rio, le fait qu'il y ait une erreur d'arbitrage à deux touches du match, à Tokyo que j'arrive en demi-finale face à une Russe, que ce soit les mêmes arbitres, et que dès qu'il y a une petite touche limite qui se passe et que je panique, et ben en fait, à deux touches du match de mon quart de finale, l'arbitre se trompe. Et en fait, j'aurais pu me dire, rebelote, c'est ce qui s'est passé à Rio et ça va être une histoire sans fin. Et en fait, j'ai réussi à complètement me déconnecter, à avoir quelque chose, une énergie qui m'a énervée. J'ai dit, ok, tu veux pas me la donner tout de suite, mais je vais quand même aller la chercher. J'ai coupé, j'ai fait quelque chose de différent que j'avais pas fait à Rio. J'ai pris le temps de retourner sur la piste, mais en tout cas, je me suis réactivée et j'ai dit ok, mais elle est pour moi cette touche en fait.
Ça vous parle ça les amis, le côté notamment de se préparer au pire, même à l'improbable, visualiser une catastrophe pour être prêt mentalement en fait, Alizée.
Vous les filles qui faites un sport où dès qu'il pleut on s'arrête, ça fait quoi?
Il y a des toits partout maintenant,
ça joue quand même. Ouais. En tout cas, la visualisation, c'est un outil très lourd. C'est un outil lourd, je veux dire, dans le sens efficace, hein, pas lourd, qui prend de l'énergie. C'est vraiment un outil qui est super efficace pour justement se visualiser dans des situations positives, moins positives, et rester toujours avec ce même focus. On peut se préparer. En fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il vit vraiment et ce qu'il visualise. Ça, c'est vraiment le propre du cerveau humain. Et donc, si on arrive à anticiper quelque chose de bien, ou alors se préparer à quelque chose de moins bien, forcément, on arrive à couvrir tous les événements. Et pourquoi tu me regardes comme ça?
Non, parce que ça me parle beaucoup.
Ah, c'est vrai, ok.
Ouais. Non, c'est ici.
Et du coup, oui, la visualisation, c'est Novak Djokovic qui en a parlé en premier dans le tennis. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont suivi cette piste-là et très efficace.
Toi, Marion, avant ta finale à Wimbledon, tu t'es préparé au pire. Tu te dis, si la reine d'Angleterre a envie de rentrer sur le terrain, d'un coup, un délire.
Non, mais c'est intéressant que tu évoques ce moment parce que j'en ai joué deux de finale de Grand Chelem. Et la première, elle est perdue. Et je peux te dire que quand tu es à un match de réaliser ton rêve et que finalement tu repars avec le plateau d'argent, c'est quand même pas la même sensation. Donc, 6 ans plus tard, là, j'étais pour le coup archi prête. Parce que j'avais tellement galéré avant de pouvoir rejouer une finale de Grand Chelem, parce qu'on était dans une époque où Serena quand même archi dominée, ouais. Il y avait très peu de place pour une autre joueuse qu'elle, même s'il y en a eu quelques-unes. Et donc l'autre fois où je suis arrivée sur cette finale, effectivement j'étais persuadée que j'allais la gagner, mais en revanche ce qui s'est passé, c'est que je mène 6-1, 5-1, 15-40 avec le match, mais alors c'est même pas complètement dans les mains, c'est que j'avais déjà le trophée dans les mains. Et en fait au moment où je me suis dit c'est bon, j'ai gagné. Parce que là, elle prenait l'eau, Sabine Nizicki, vraiment, elle prenait l'eau. À un moment, je me suis dit, ça y est, j'ai gagné. Bah, en fait, mes pieds se sont figés dans le sol. Quoi. Je ne pouvais plus bouger.
Godasse de plomb.
Et ça fait très, très vite 5-4. Et entre 5-1, 15-40 et 5-4, on n'est quand même plus du tout dans la même mayonnaise. Et donc là, j'ai 1 minute 30 au changement de côté pour me dire, bon, c'est très simple, il y a deux scénarios. Soit tu perds ce jeu, ça fait 5 partout, la dynamique a complètement changé, tu perds le match et tu seras pour l'histoire du tennis, la plus grande loseuse de l'histoire, parce que perdre une finale de Grand Chelem.
Tu t'es dit ça et t'as réussi à gagner.
Tu penses à ça vraiment?
Bien sûr.
Okay, du mental,
en menant 6-1, 5-1, 15-40, tu seras étiqueté à vie comme la plus grande loseuse de l'histoire du tennis. Soit tu te lèves, tu fais comme tu l'as fait pendant des millions de fois, 4 premières balles d'affilée comme à l'entraînement sur les plots, et qu'on fait ça depuis qu'on a 9 ans, et tu fais 4 premières balles, et normalement ça doit bien se passer. Et je me suis levée, et j'ai fait effectivement 4 premières balles, et puis surtout, parce que c'est vraiment la réalité, donc mon père était venu pour assister à cette finale, alors qu'il n'était pas là depuis le début du tournoi, et chaque fin d'entraînement, je devais terminer par 10 services sur la ligne extérieure à gauche pour que l'entraînement se termine. Et à 40-0, je l'ai regardé, il était en face de moi, et je lui ai dit, regarde papa. Et j'ai armé mon service et je l'ai mis sur la ligne exactement comme pour terminer les centaines d'entraînements que j'ai fait.
Les heures d'entraînement n'auraient pas été vaines, en fait,
sur le dernier moment, t'as fait du Marion. C'est-à-dire que tu t'es reconnecté avec ce que t'avais fait pendant toute ta vie. Et alors, ça me permet d'aller sur ce que tu nous montres dans ton livre, Manon Appetit. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'importance de cartographier peut-être aussi ce que tu sais faire. Tu mets dans le livre une espèce de petite carte, une petite fiche.
Il y a des smileys
aussi. Pour te rappeler tes objectifs et ce que c'est que faire du Manon. Je vais le lire. Je sais que mon corps sait faire. Je suis OK avec ma peur, l'agressivité, piéger, jouer avec. Ça va être long. Plus c'est long, mieux c'est. Profite des émotions. Je sais bouger. Fais du Manon. Je suis puissante.
C'est des
décision,
des
action.
Frasquées.
J'ai le temps. Vie. C'est quoi? En fait,
c'est
ça, pour toi, c'est pour te dans les moments clés, c'est pour te recentrer sur toi.
Exactement, en fait, je lisais cette feuille avant chaque match.
Donc ça, tu l'avais au jeu, par exemple ?
C'était ma feuille des jeux. D'accord. Je l'avais dans mon téléphone, je la relisais avant, dans la chambre d'appel avant chaque match pour me recentrer sur ce qui était important, pas aller chercher une victoire, pas douter de ce qui allait se passer. Et en fait, en lisant ça, j'occupais mon cerveau et je le connectais aux choses qui étaient importantes pour moi. Et il y a un gros cœur dessus, c'est en me rappelant que j'aime et que je suis passionnée d'escrime. Ce cœur, je l'avais dans mon sabre et ça m'a animée, en fait, toute cette journée.
Le pouvoir d'écrire des choses aussi.
Ça lit ce que je pense depuis ce que je dis tout à l'heure, c'est que tu l'as, ça. T'as pas besoin de la lire, l'affiche. C'est en toi, mais ça nous rassure. Mais oui, je comprends. Cette
mais chacun a ses rituels.
Mais bien sûr, ça fait partie plus d'un rituel. Et je suis sûr que si tu la lis pas, même si tu as tous les trucs, tu dis merde, j'ai manqué ce moment-là. Moi, j'ai fait une préparation à la suite de mes 2-3 premiers échecs. J'ai fait deuxième d'une étape du Tour de France lors de ma première année du Tour. Je suis comme toi, j'ai attendu 6 ans pour arriver à être en position de gagner une étape sur un grand tour. Et après 2002, j'avais énormément travaillé. Sauf que j'avais oublié un truc, c'est qu'il fallait quand même être prêt physiquement. Et quand les deux se sont liés, ce jour-là, clairement, je ne sais pas ce que je me suis dit, mais dans mes actes, j'ai pensé à rien. Donc tu vois, ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut dire aussi. J'ai pensé à rien. C'est un tunnel. On arrive à la flamme rouge, je suis incapable de te raconter ce qui s'est passé.
Non, mais ça, tu le lis.
Pourquoi
avant.
Je l'ai fait instinctivement. Oui. J'ai eu besoin de me rappeler de rien, mais j'ai gagné. Pourquoi ? Parce que j'étais imbibé de tout ça.
C'est une piqûre de rappel, ça, pour avant. Mais après, quand t'es. L'idéal, c'est quand t'es dans l'action.
Après, c'est un sport, contrairement au vôtre, il n'y a pas de pause.
Ça t'est arrivé d'écrire, Alizé ? Tu disais le pouvoir de l'écriture.
Non, mais moi, c'est des carnets entiers, des trucs comme ça. Non, mais entiers, des centaines et des centaines de pages griffonnées avec des mots-clés, des mantras, des phrases.
Je vais pas te marquer. Elle m'a saoulé avec ses quoi demain.
Tu sais ce qui est très intéressant d'évoquer. Bon, déjà, on évoque Manon, qui est quand même une immense championne olympique, arrivée, et surtout, alors on parlait tout à l'heure de pression, de mental, arrivée à être performante le jour J quand tu t'es entraînée pendant 4 ans. Nous, on a la chance d'avoir des compétitions toutes les semaines. Là, c'est faut vraiment être au max du max, au moment clé, au jour J. Donc, c'est une préparation mentale qui est énorme. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut pas minimiser, c'est la différence entre la psychologie féminine et la psychologie masculine. Je pense que ça aussi, nous, on gère les émotions de manière différente.
Bien sûr.
Et puis, pour en revenir à la manière des mots-clés et des phrases-clés, l'année dernière, Coco Gauff s'était inspirée. D'ailleurs, je crois que c'était d'une sprinteuse américaine qui avait écrit « Je vais remporter le sprint au JO, je vais remporter le sprint au JO ».
Il y a plein d'athlètes.
Exactement. Et Coco Gauff avait écrit « Je vais gagner Roland-Garros, je vais gagner Roland-Garros ». Elle avait écrit 10 fois sur une feuille et elle le lisait avant de rentrer sur le terrain systématiquement sur Roland-Garros. Donc,
ça,
tu vois.
J'entends et je comprends. Tu m'enlèveras pas l'idée qu'elle a, athlétiquement parlant, elle est forte, elle est
bien, mais bien sûr, mais ça va bien sûr. Mais je pense
Manon,
que c'est la psychologie féminine.
On sait à quel point ça se joue à des détails, le très très haut niveau et les grands titres et les grandes médailles, c'est des tout petits pourcents parce que, comme le disait Manon, tout le monde essaye de trouver des solutions pour arriver à gagner. Et du coup, si tu rajoutes ce petit pourcent qui fait la différence, c'est ça qui peut t'emmener sur une médaille d'or ou une médaille d'argent.
Tu nourris toi dans ta confiance, c'est évident.
Une dernière question, Manon Rapiti, t'as toujours la dalle ? T'as toujours envie d'aller gagner après ton titre olympique, justement. T'es maman maintenant aussi, il y a l'objectif de championne du monde. Toujours
la même envie. Alors la dalle est un petit peu différente, mais j'ai toujours envie de gagner. En fait, cette émotion qu'on a quand on est sur le terrain, elle est du moment de la victoire, certes, mais en fait, tout ce frisson, ce stress, il nous fait faire des choses et il nous fait ressentir des choses qui sont tellement incroyables que oui, j'ai envie de ressentir ça. Et là, j'ai fait quelques compétitions et je le ressens passer, donc ça commence à m'énerver.
Voilà, il est là le mental.
C'est bien.
Donc, ça commence à énervé. Merci Manon Rapiti, c'était super de t'avoir avec nous, dépasser mes peurs et mes limites.
Merci pour tout ce que tu as réussi. Merci beaucoup.
Aux éditions Robert Laffont, c'est passionnant. Effectivement, il y a quelques petits tips, comme tu le disais, pour évoquer cette construction
d'un mental.
Et si j'avais pas un mental pour vous gérer tous, franchement, je te le dis. Allez, on referme la porte du vestiaire.